parle beaucoup de visualisation de données. On est beaucoup dans les processus de visualisation. Quand bien même en amont, on est toujours en train de représenter des processus, et c'est peut-être de ça dont on a moins parlé aujourd'hui. Donc, on va commencer dans ces trois outsiders. Donc, nous avons une première présentation qui est faite par Hervé Paris d'Altercarto. Bon, je vais vous laisser chacun vous présenter, mais qui aurait plus la connotation usage citoyen, avec la dimension plutôt sociologique. Ensuite, on a Arthur Charpentier, qui va nous donner le regard d'un économiste sur ces différentes pratiques. Et ensuite, Étienne Combe, qui se dit pseudo-cartographe, et qui vient, lui, plutôt des génies des réseaux. Voilà. Donc, et ben même règle, 20 minutes, et puis 10 minutes de questions, et ensuite, on aura une demi-heure pour... je crois que c'est ça, une demi-heure pour discuter, clôturer et voilà.
Je veux bien un signal à la moitié.
Ah, vous avez vu, je suis très...
Merci. Bonjour. Je suis Hervé Paris et j'anime avec d'autres une association qui s'appelle Altercarto, qui est une sorte de mutuelle. Elle a des statuts de mutuelle et elle mutualise des données, des outils carto, des savoir-faire et des résultats de travaux. Et c'est une mutuelle au sens propre du terme, parce que c'est un truc un peu activiste, dans le sens où on plaide pour l'ouverture des données publiques. Je ne sais pas si c'est vraiment le sujet aujourd'hui, donc j'en parlerai pas trop. Mais disons, faire en sorte qu'il y ait des données publiques qui soient fournies d'une autre manière que par avec des API et des logiciels, des accès à des bases de données. Et donc on essaye de négocier qu'il y ait un minimum de données accessibles à tout le monde sous des formats CSV, Excel, etc., régulièrement mis à jour, etc., comme le fait l'INSEE en partie, mais pas les autres administrations. Ces données-là soient l'objet d'une discussion avec les fournisseurs de données, les pouvoirs publics, etc., pour qu'il y ait un débat public sur le minimum de données requis avec lesquelles on puisse discuter, et ça, champ par champ, et j'y reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc avant de faire de la carte, on s'intéresse aux données. Et cette question est née, l'association, le projet en fait est né, dans un contexte très particulier qui est en 2004, peut-être que certains d'entre vous se souviennent de ça, il y a eu une opération de Pôle emploi qui a consisté à recalculer rétroactivement les ACEDIC, les allocations ACEDIC des chômeurs. Ça a déclenché un mouvement massif, et comme il y avait déjà une coordination de chômeurs précaires, intermittents et jeunes chercheurs, il y a eu ce rassemblement inédit où des cadres sup au chômage se retrouvaient avec des Iroquois et des squatteurs, des chômeurs, des jeunes chercheurs et des précaires en tout genre, dans un front pour s'opposer à ce procédé de recalcul. Moi, il se trouve que j'étais aussi chômeur à ce moment-là, puisque j'avais déménagé, que je ne retrouvais pas de boulot, et donc j'ai rejoint ce collectif. Et à la fin de cette bagarre qu'on a perdue, il restait un collectif d'entraide, et s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce collectif d'entraide? Est-ce qu'on en reste là? Donc on a fait deux choses. On a fait une cellule brainstorming, qu'est-ce qu'on peut faire de structurant, durable et tout ça, et de l'autre côté, on a fait un dispositif d'entraide. Et dans cette cellule de brainstorming, une des questions qui est arrivée tout de suite, c'est à travers l'expérience de ce conflit, se sont retrouvés au même rang des gens qui étaient déclassés du monde du travail et qui pour autant travaillaient quotidiennement tous les jours. Et donc on s'est dit, on va faire la carte des activités que font les gens. Et on est parti sur le projet Carto comme ça, du coup, à partir d'une position marginale dans le dispositif d'activité. Donc ça se situait à Nice. Pour situer, il y avait des gens qui faisaient des maisons dans les vallées de la Roya, d'autres qui faisaient des collectifs sociaux d'entraide, d'autres qui faisaient un plein de trucs, et en gros, on s'est dit, derrière la catégorie chômage, il y a plein de choses, et essayons de donner de l'épaisseur à cette affaire-là, et on est parti là-dessus. On n'y est pas arrivé. Hein. Mais ça a donné le projet Carto. Et ce projet Carto a eu deux orientations. Du coup, on s'est dit, on va voir, on va s'occuper de la précarité, cartographier la précarité, etc. On n'avait pas de machine, on n'avait pas de données, donc on est parti sur ce projet-là. Mais comme on était très actifs, on a négocié des emplois aidés, et avec ces emplois aidés, on a constitué une équipe qui a commencé à essayer de voir ce qu'il y avait de disponible comme logiciel et tout ça, et nous, on avait un parti pris, qui était de dire ce qu'il faut, c'est équiper les gens qui sont sur le terrain, pas les institutions, et notamment pour avoir un vis-à-vis et suffisamment équipé et renseigné pour pouvoir discuter avec les institutions de manière équilibrée. Donc c'est parti de là. Ce qui restait de ça, c'est qu'une partie de l'équipe qui était à l'origine, en contrat aidé, est toujours là, dans l'équipe actuelle de l'Alter Carto. Un est salarié, les autres sont membres de l'association. Et le seul salarié est un qui y est depuis 2004. Et l'autre chose qui est restée, c'est une conscience partagée que d'un côté, il y avait les catégories des données publiques, que l'emploi, chômage, bien sûr, parce que c'est parti de là, mais aussi tout ce qui concerne le logement, etc. Il y avait une dimension organique qui définissait les conditions des gens tout en ne les résumant pas. Et donc, on s'est dit, on ne va pas faire une carto démonstrative, de sortir des cartes, on va faire une carto de débat pour savoir ce qu'il y a derrière ces chiffres. Et en fait, on n'est pas sorti de cette ligne-là depuis le début, on fait des cartos qui servent à débattre. Et donc, ça a plein d'incidences. La première incidence, c'est qu'on n'avait pas d'outils de cartes qui permettent de débattre, parce qu'on s'est tout de suite aperçu que pour débattre, il ne fallait pas avoir une donnée, mais une carte, mais plusieurs cartes, et pouvoir poursuivre le chemin de réflexion en mobilisant de nouvelles données, de nouvelles cartes. Je reviendrai sur les méthodes après. Et qu'en fait, ce ne sont pas des cartes qu'on faisait, mais c'est des explorations des données elles-mêmes, et on se servait des cartes pour explorer les données. Donc on était dans un rapport très différent, c'est le cœur de l'affaire pour nous, ce sont les données et pas les cartes. Après on est revenu à faire des cartes comme tout le monde, mais il y a ça au fond comme démarche. Et la deuxième question qui est apparue, c'est qu'en fait, c'est une question qui a été abordée à plusieurs reprises, pas directement, mais c'est qu'en fait quand on a montré une carte, qu'on a bien discuté, et quand on revient à la séance suivante, personne ne se souvient de ce qu'on a discuté, parce que la discussion est compliquée, et la mémoire de la carte ne fait pas le lien avec la discussion qu'on a eue. Parce qu'en fait, la carte évoque des champs d'expérience, des références, un tas de trucs qui sont mobilisés par les gens, qui y compris le territoire de ce point de vue-là, qui sont très très éloignés en fait, de ce que montre la carte en brut. Donc ces deux constats nous ont amenés, dans le fil du temps, à adopter deux partis pris. Le premier, c'est qu'en fait, on ne faisait pas des cartes détachables des textes qui racontent ce qu'on fait avec. Donc ce ne sont pas des cartes, ce sont des cartes insérées dans des textes ou des processus de travail. Donc en fait, les machines qu'on a construites sont des machines à scénariser en fait les discussions et pas des machines à faire des cartes. Scénariser l'exploration des données avec des cartes. La deuxième chose qui est apparue, c'est que pour faire ça, il faut pouvoir avoir des machines qui mobilisent de la donnée à la demande. Alors la demande, ça peut être du court terme, du moyen ou du long terme, mais quand on les a, les données, il faut pouvoir les mobiliser quand ça vient. Par exemple, un truc bateau, il y a beaucoup de licenciements dans l'industrie. Oui, mais c'est quoi l'industrie? Donc il faut avoir les données des composés de l'industrie pour regarder si ça tient, etc. Est-ce que c'est des vieux ou est-ce que c'est pas des vieux? Parce que ça, c'est une question qui vient immédiatement. Et donc est-ce qu'on a les données sur l'âge, etc. Et si on les a pas, on va les négocier. Et tout le processus de travail, c'est construit comme ça. Donc ça, c'est le, pour faire ça, donc il nous fallait pouvoir mobiliser des données à la volée pour construire des scénarios et des raisonnements. La deuxième question était que si, dès qu'on va vite, plus la carte est compliquée, moins elle permet un raisonnement itératif. Et on est tombé sur deux écueils pratiques. Le premier, c'est ça s'est traduit, enfin je vais résumer, parce que j'ai d'autres choses à dire après. Mais comme vous êtes de la partie, vous allez comprendre facilement. Si je prends l'exemple du chômage, ça c'est vite fait, il y a un débat public qui sort le chiffre fatidique des 10% de chômeurs. Maintenant c'est plus ça, mais bon, on ne va pas faire des cartes avec le seuil 10%. Mais si on ne fait pas des cartes avec le seuil 10%, on fait des cartes de quoi? Donc on a adopté le principe de faire des quantiles. Après la question c'est, est-ce qu'on fait des quantiles de 5, 10, quel niveau de détail? En fait, on a pris le parti de faire des quantiles 5, pas plus, pour deux raisons. La première, c'est que dès qu'on a beaucoup de territoire, quand on est dans la plupart des données, il y a des structures hiérarchiques dans les quantiles, comme on a vu sur les cartes de ce matin. Et dans les structures hiérarchiques, c'est rare qu'on voit une uniformité du continuum. Souvent, il y a des tâches clairsemé partout, etc. C'est une information importante en tant que telle. Mais on passe beaucoup de temps à discuter de ces disparités et qu'on ne sait pas étudier sur la simple carte. Ce qu'on est capable de dire, c'est que dans telle commune, il y a beaucoup de chômeurs, celle d'à côté un peu moins, celle d'à côté encore un peu plus, et tout ça. Donc on n'a pas de vision, en fait, de la chaîne du territoire. On voit que les extrêmes quand on a des quantiles trop développés. Donc on a pris le parti de réduire à 5 le nombre de quantiles. La première raison, c'était une facilité de lecture. Et la deuxième, c'est parce que ça réduit le risque de dire des bêtises sur les partitions de données, sur la position d'une commune dans un ou dans un autre. Disons qu'à la frontière de quantiles, une commune peut sauter de l'un à l'autre suivant le taux de sondage, comment c'est fait, etc. Sur 10, elle peut en sauter 3. Plus on réduit le nombre de quantiles, moins elle en saute. Donc plus on a moins de chance, disons, d'être... Nous, on était un peu parano. D'un côté, on raisonnait de manière aussi rigoureuse que possible. Et d'un autre côté, on ne voulait pas être vulnérable sur la critique puisqu'on voulait aller au front dans la discussion. Donc on a réduit le nombre de quantiles aussi pour ça, pour sécuriser, en fait, les distributions. Alors, au final, pourquoi on a fait des quantiles? Ça, c'est les arbitrages qu'on a fait à l'époque. Mais on a fait des quantiles pour une autre raison. Je reviens sur la question des 10%. En fait, nous, les quantiles, ils étaient très vertueux pour ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que, en gros, c'est une classification automatique. Et là, on peut engager la discussion tout de suite avec un collectif de gens comme vous sur les quantiles en disant qu'est-ce qu'il y a de pertinent dans cette hiérarchie? Qu'est-ce qu'elle signifie? On ne s'intéresse pas aux chiffres, mais d'abord à la hiérarchie. Et après, on discute la moitié. Oula, ça va vite, trop vite. Bon, voilà, on a fait ça. Alors après, on avait une autre question, c'est que pour animer des groupes de travail et pour faire le boulot qu'on voulait faire, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est des cartes d'exploration sur lesquelles on fait remonter l'expérience des gens, ou des questionnements. Très vite, la question est apparue, les hiérarchies, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il nous faut des palettes non hiérarchiques. Comment prendre des palettes non hiérarchiques? Eh bien, on a pris des palettes, on a longuement discuté, et au final, à l'époque, il y a un courrier international qui a sorti un répertoire des cartes dans le monde, et il y avait une belle carte chinoise. On a pris les couleurs de cette carte comme couleurs non hiérarchiques dans notre monde. On a appelé ça la palette chinoise avec un objectif d'associer à un questionnement. Je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas où elle est, je la montre après. Il faut que je la montre. Excusez-moi. Je l'avais préparée, mais elle est sortie de mon jeu. Elle est là. Bon, ça, c'est notre couleur, notre palette chinoise. En gros, la question qu'on pose aux gens, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun en rouge, qu'est-ce qu'il y a de commun en jaune, qu'est-ce qu'il y a de commun... Donc c'est plutôt une vision associative qu'une vision hiérarchique. Et on croise les deux à chaque fois, c'est-à-dire chaque fois qu'on monte une carte, on montre une carte hiérarchique et une carte palette chinoise. Donc là, ça tombe bien, le rouge, c'est les pays, disons, riches. Ça, c'est le GDP, le PIB. Mais on a aussi la même en sens inverse pour casser le jeu. Et voilà. Donc, essayer de casser le jeu des hiérarchies pour essayer de penser associatif. Et du coup, en croisant ces deux-là, on a un instrument qui permet de discuter facilement, même avec des gens qui n'ont pas de lecture de la carte, qui n'ont aucune expérience de lecture de la carte. C'était ça notre objectif, en fait. La deuxième chose, c'est que à chaque... On a mis en place ces scénarios, je vais vous montrer. Je peux enregistrer cette carte. Je la nomme. Je vais en mettre une autre. Et je vais réafficher la donnée parce qu'elle n'est pas enregistrée. Hop, GDP. Et là, j'enregistre ici les deux données et je commente pourquoi j'ai choisi ces données, etc. On construit un scénario, c'est-à-dire qu'on note tout ce qu'on a fait. Et c'est un bloc-notes de la discussion qui peut être. Et après, on resynthétise, on le réécrit, on se revoit trois fois et au final, on sort quelque chose. Donc, c'est ça le procédé de travail. Donc on peut mettre des palettes hiérarchiques pour faire bien. Donc, vous voyez, c'est des trucs simplissimes. Voilà. Bon, ça, c'était l'instrument de base sur lequel on a commencé à travailler. Je vous passe le détail, mais ça, c'est accroché à un réseau qui s'appelle la Rose des Vents, où on cumule tous les gens qui utilisent nos outils, partagent en fait leurs données et l'accès aux données dans un réseau, ce qu'on appelle notre petit Google de la donnée. Et par exemple, j'en ai préparé un, je mets boulot parce que je cherche les boulodromes. C'est une anecdote, mais on a bossé en Lorraine avec des syndicats et ils parlaient tout le temps du facteur culturel en Lorraine, entre le nord et le sud. Et on a donc discuté de qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme indicateur de facteur culturel, parce que c'est pas si fréquent que ça dans les données publiques. Et il y en a un qui a sorti les boulodromes, donc on allait chercher les données sur les équipements, et on sort les boulodromes, et ça donne ça. C'est pour vous montrer comment on fonctionne, on navigue dans notre monde, en fait. Et si je prends la carte de la Lorraine, là, je suis passé par cette Rose des Vents, et cette Rose des Vents, c'est des fichiers qui regroupent plein de fichiers, dans lequel il y a un moteur de recherche qui permet d'avoir les données unitaires. C'est-à-dire, s'il y a boulodrome, si ça existe, je vais le trouver dans toute la base. C'est-à-dire, une des lignes de conflit qu'on a avec les fournisseurs de données publiques aujourd'hui, c'est qu'on n'a jamais accès au contenu du fichier, on n'a que des libellés de fichiers, et donc si on n'est pas des experts qui ont déjà ouvert les fichiers, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pour ce qui est du citoyen de base, c'est-à-dire qu'il veut un tableur Excel et pas une API. Et donc, si j'affiche ça, cette carte, je prends ma donnée de boulodrome, et vous allez voir qu'ils avaient raison, les syndicalistes. Parce que moi, je n'y aurais pas pensé tout seul, c'est sûr. Hop. Je choisis la carte de la Lorraine. Donc ça, c'est notre instrument de visualisation de données. Pour, avant de les télécharger dans nos machines, on voit la gueule que ça a. Donc, je vais le mettre en ponctuel. Et voilà. Et donc, en Lorraine, il y a des boulodromes au nord et pas au sud. Vous avez une idée de pourquoi ?
C'est la Moselle annexée. C'est la Moselle
annexée, non ? Ça serait bien, mais les Allemands jouent pas trop aux boules. C'est à cause des Italiens. C'est un lieu d'immigration italienne très important. Et donc voilà, ça c'est ça qu'on fait. Nous, à chaque fois qu'on traite un sujet, c'est exactement ça qu'on fait. C'est ça notre activité. Donc en fait, on a formalisé ça sous la forme de protocole d'enquête. On fait de l'enquête carto, basée sur l'exploration avec un protocole simple, classique. Il y a des questions qui se posent. Nous, collectif, on s'empare de ces questions. Quelles sont les questions qu'on se pose? À qui on pose les questions? Aux unités territoriales qu'on a sur notre carte. Donc on a forcément une discussion sur le, d'abord sur la géographie qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser une géographie fine, pas fine, quelle maille, quelle échelle, quel périmètre, et tout ça, etc. C'est le préalable en fait à la discussion. Où est, à quel niveau de détail et où est-ce qu'on regarde ça? Et après on fait ça, ce que je viens de faire. Et on enregistre ça dans nos scénarios. C'est le cas idéal, parce que on a, en général, un protocole comme ça, ça prend 3, 4, 5, 6 réunions. Donc il y a des cadres dans lesquels on arrive à faire ça, d'autres pas. Mais en gros, on se rapproche de toutes les manières possibles de ça. D'essayer d'embarquer les gens avec lesquels on travaille là-dedans. Et vous n'imaginez pas la puissance du travail collectif dans ces cas-là. J'ai pris cet exemple du Blue Drome, mais quand on discute toujours avec les mêmes syndicalistes sur les mobilités, on a des cartes de flux de mobilité, et ils nous disent, les cartes de flux de mobilité, c'est bien, mais en vrai, toutes celles, parce qu'ils ont tous participé au SCOT, on voit que les flux principaux et 70% des gens se déplacent en radial et pas vers la ville centre. Donc leurs problèmes sont là, dans les périphéries des grandes villes, et pas dans l'accès au centre. Donc vous voyez, ces discussions, je prends le cas des syndicalistes, mais quand on discute dans les quartiers, une question qui se pose tout de suite, on a plein de cartes là-dessus, sur le problème c'est dimensionner notre problème. Donc on a trois outils intellectuels, disons, qui sont la coprésence. On fait des cartes de coprésence. On ne discute pas corrélation, tout ça. Nous, on fait des comptes, comme vous l'avez compris. On fait des comptes, seulement des comptes. Mais on discute de la coprésence à partir des comptes par territoire. Le deuxième instrument vital, c'est la comparaison, parce que c'est par la comparaison qu'on arrive à dimensionner les phénomènes qu'on observe. Et le troisième, un peu plus sophistiqué, mais qui passe par la scénarisation, c'est faire des configurations reconnaissables. C'est-à-dire, est-ce que la situation de Vaux-en-Velin est comparable à celle de Saint-Fons, ou est-ce que celle de Saint-Denis est comparable à celle qu'on a vue ce matin, etc. Ça, c'est par les scénarios qu'on arrive à élaborer, parce que c'est forcément du multifactoriel. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce qu'on fait, c'est que le multifactoriel, ça marche même avec des gens qui n'ont jamais vu de carte ni de statistiques de leur vie. Il suffit de prendre le temps. Et le temps, c'est cher, c'est notre denrée la plus rare. Pour nous, mais pour eux aussi. C'est-à-dire, c'est pas facile de réunir, mais ça dépend. Par exemple, on commence avec Jordan qui est là-bas, et notre équipe, un cycle d'accompagnement où le conseil citoyen de Saint-Fons, qui est un bled de la banlieue de Lyon, qui nous connaît parce qu'on a déjà travaillé avec eux, etc., ont décidé de faire 16 séances de carto pour pouvoir maîtriser. D'abord, ça les passionne, et en plus, ils ont envie de discuter avec les pouvoirs publics, puisque maintenant, ils ont un pouvoir, du fait qu'ils ont un pouvoir de participation à tout ce qui est instance, etc. Ils veulent avoir des billes et manger les rapports qu'on leur donne d'habitude, qui sont... voilà. Donc, on est dans ce processus-là. Alors, je ne vous dis pas qu'on n'a pas des problèmes compliqués de méthodo. On fait des bugs tout le temps. Des fois, on s'en aperçoit que 6 mois après. Et tout ça. Mais on a quand même essayé d'outiller de manière le plus robuste possible ce qu'on fait. Et donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que ces machines sont en logiciel libre. Elles sont pas faciles d'accès, sincèrement. Mais mais il y a plein de petits qui naissent de ça, et en particulier un sur lequel je voulais venir. Le nec plus ultra, ce qu'on veut arriver à faire, ça a été évoqué ce matin, je coupe tout ce que je voulais dire, mais c'est d'arriver à ce qu'il y ait des collectifs qui produisent des cartes articles, ou des articles cartes. C'est-à-dire, notre produit final, ce sont des articles cartes. Et ces articles cartes, c'est, par exemple, ça, je vous dis ça parce que c'est un événement, cette carte-là, c'est la carte des secteurs du Grand Tunis. Le Grand Tunis, c'est 2 600 000 habitants. Aucun Tunisien n'a jamais vu cette carte. Elle a été faite avec le OpenStreetMap Tunisie, on l'a dessinée à la main, on s'y est mis à 15 et on a mis 3 mois pour la faire. Parce que, pour pouvoir équiper le débat, il va y avoir 14 municipalités là-dedans, dans la décentralisation, et personne n'a la carte des municipalités, et ni de ce qu'il y a dedans. Donc il va y avoir des élections sans chiffres, Et donc, ça a été un pari de faire sortir ces chiffres. Il y avait, par contre, il y avait des données administratives qu'on a récupérées, ce qui nous permet de faire un article déjà assez percutant. Par exemple, il y a eu 225 000 logements construits en 10 ans, dont la moitié après la Révolution, c'est-à-dire depuis 2011. L'accélération, 400 000 habitants de plus, et tout ça, personne ne sait où ils sont. Avant qu'on les voit sur la carte, comment ils sont réparés, à part les administrations, mais les administrations ne partagent pas. Donc voilà, c'est le type de choses qu'on fait. Enfin, c'est vraiment court pour moi. Je voulais dire qu'il y a un truc, on équipe aussi un autre aspect, c'est la réutilisation de nos données. Les données brutes, donc nous on a un parti pris, c'est qu'il n'y a aucune donnée calculée dans nos cartes. C'est la machine qui calcule les cartes, c'est-à-dire qu'on a des assistants pour faire des pourcentages, des taux de variation, tout ce qu'on veut. Et dans le fichier, il n'y a que des données sources. Il n'y a pas de données calculées. Enfin, données sources telles qu'on les a eues. C'est-à-dire qu'on ne fait aucun calcul qu'on ne puisse pas énoncer aux gens dans une phrase. On a fait comme ça pour le faire. Et les données qui nous ont permis de le faire sont dans le fichier, elles sont téléchargeables dans chaque module carte. Mais surtout, ça nous donne une puissance d'action, ce cumul. C'est que, par exemple, je prends un truc qu'on a fait à la Guadeloupe. Voilà. Ce qu'il y a derrière la carte que je vous ai montrée sur la Grand Tunis, c'est cette tête-là. C'est un module carto dans lequel on a des matrices. On édite des matrices comme ça et je peux garder les indicateurs, faire moi-même mon scénario qui suit un profane. Hop. Et je vous résume parce qu'il me reste que 30 secondes. Je peux visualiser ce scénario et je peux le partager. C'est-à-dire que toutes les ressources carto du réseau, en Tunisie, comme en France, comme en Lorraine, etc., sont réutilisables par n'importe qui, sous cette forme-là, qui peut créer ses propres scénarios, etc., ses échanger, etc. Donc voilà. Bref, c'est un monde. Et disons qu'on s'est limité à un nombre restreint d'opérations statistiques qui sont en fait des comptes. Et il y a un autre élément conceptuel que je voulais que vous entendiez, c'est que ce qu'on dit aux gens, et c'est ce qu'on fait en fait, c'est que quand on rentre sur la carte, notre carte est peuplée d'individus, ces individus sont les territoires, et on interroge les territoires. Monsieur le territoire de Saint-Denis, comment t'as répondu à l'enquête INSEE, comment t'as répondu à l'enquête CAF, comment t'as répondu. C'est comme ça qu'on traite les données. Ce sont des attributs des territoires. Et nos individus sont les territoires. Donc on fait de la classification des territoires au regard des attributs qui sont les leurs. Et on rentre, ce qui vous manque pour comprendre, pour voir tout, c'est ça. C'est que à chaque ensemble de données qu'on traite, on les met sous forme graphique qui nous permet d'explorer l'intérieur des territoires. Donc en fait, on est dans un système 3D, les données en plan et les graphiques qu'on peut explorer parce qu'on a parfois des séries de 50 graphiques parce qu'on a 300 données dans le fichier et voilà. Et en fait, cette articulation-là, c'est vraiment... Ça décoince tout le monde, en fait. Parce que c'est pas facile à lire une pyramide des âges, mais quand les gens ont compris qu'une pyramide des âges, c'est d'introduire le facteur temps, ils discutent la prévisibilité, l'histoire, etc. Vous voyez ce genre d'affaires. Donc, merci de votre attention. Pas trop débordé.
C'est parfait.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions après cette... Là, on a effectivement changé de domaine, on est parti. On peut dire sur le point de vue de la base.
Oui.
Il n'y a pas de questions. Alors moi, j'ai été très impressionnée par la question des scénarios et que je trouve c'est une jolie idée de mutualisation. Et qu'est-ce que vous en faites dans le temps? Est-ce que vous conservez cette historique? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un apprentissage? C'est-à-dire, est-ce que les gens, une fois qu'ils ont pris en main, est-ce que vous pouvez comprendre comment ils s'approprient petit à petit les discrétisations, la manière de lire, la question et...
D'abord, les scénarios. Les scénarios, pendant longtemps, on les a stockés sans les stocker. Parce qu'on n'avait pas de site. On a un site depuis pas longtemps, depuis 4 ans. Et donc, c'est-à-dire on sort du bois en fait. On a travaillé 10 ans et on sort du bois depuis 60 ans. Mais on a travaillé beaucoup, c'est-à-dire on a des stocks et des stocks qu'on va remettre progressivement. Donc le but c'est de les sortir et non seulement de les sortir mais de faire en sorte que les gens les fassent eux-mêmes. Et donc en France on est là, donc on le fait, mais on le fait avec d'autres, mais en Tunisie on forme des gens pour les faire et ils les font. Et donc le site tunisien, tout ce qu'il y a dedans, à part deux qu'on a fait nous, tous les autres sont faits par l'équipe qu'on a formée et d'autres qui font des scénarios à côté, petite vitesse. C'est compliqué de faire des scénarios. En fait, ça a été évoqué cet après-midi, je crois. En fait, on est dans un montage. Pour que ça marche, il faut arriver à monter un trio de compétences. Alors, il y a des gens qui les ont individuellement, mais c'est rare. Il faut qu'il y ait, en dehors de l'envie et tout ça, et du contexte, il y a le... Il faut avoir le feeling web, parce que c'est que du web. Même si on ne le diffuse pas, c'est que de la technologie web. Parce que je ne me suis pas étendu là-dessus, mais en gros, tout est portable, tout est exportable, ça marche même sans serveur, c'est de la technologie client, pour que l'on puisse le faire marcher même là où il n'y a pas d'internet. Mais c'est du web, c'est fait pour être sur le web, pour être partagé. Et donc les techniques web de design web sont plus compliquées que du Word ou tout ça. Donc ça c'est une question. La deuxième, c'est, même si c'est très outillé, ça reste un problème de design. La deuxième question, c'est qu'il faut des gens qui ont le feeling donné. Soit ils sont formés, soit ils ont déjà été formés en sciences sociales, soit ils sont, quand je dis sciences sociales, c'est-à-dire que, par exemple, un pourcentage, c'est banal, parmi les gens qu'on a reçus en Tunisie, dans l'équipe de 5 qui est maintenant, il y avait 4 ingénieurs, un biologiste, 3 informaticiens. Jamais ils avaient fait un pourcentage de leur vie. Et donc ça va pas de soi. C'est-à-dire que là, on remonte à loin pour qu'ils traduisent ce qu'ils sentent et voient en gestes opératoires, en fait. Donc c'est ça qu'on essaye de faire. Et le scénario est très puissant de ce point de vue-là parce qu'on peut décomposer en fait les gestes. Et donc c'est ce qu'on leur fait faire en formation. C'est-à-dire on décompose toutes les étapes et ils construisent le truc avec un raisonnement qui consiste à faire un pourcentage. Mais il n'empêche que dans le réel social, un pourcentage, ça a un impact considérable. Beaucoup plus que le pourcentage de la part du gâteau. Mais c'est un peu la même chose, sauf que c'est la part des gens qui ont accès au logement, la part des gens qui... Oui. Et en fait, pour vous montrer l'ampleur du problème, la semaine dernière, donc on a monté des équipes comme ça, un rédacteur, le troisième côté c'est le rédacteur, il faut pouvoir écrire. Donc on monte des équipes, rédaction, collectif ou individuel, web design et enfin maîtrise de page web quoi, et ceux qui font les machines, qui font les indicateurs et tout ça. La semaine dernière, il y a une équipe qui travaille à Kasserine, c'est un coin de Tunisie, et ils reviennent avec un article où ils écrivent, ils discutent de l'abandon scolaire, qui est un problème crucial là-bas. Et dans l'article, ils mettent 64% des enfants sont déscolarisés. Et donc on a dit, mais 64% c'est pas possible, il y aurait une révolution. Et donc, mais si, on l'a vu dans telle source et telle source. En fait, c'est un chiffre qui circule partout en Tunisie, et donc personne ne traduit le sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'habitude du chiffre en Tunisie, zéro habitude du chiffre. Et en fait, les chiffres sont des chiffres hors toute considération de dimensionnement. Ce sont des chiffres purement politiques. Et il y a une raison à ça, c'est 30 ans de dictature, c'est-à-dire que le déni du chiffre est total, si c'est complet, c'est-à-dire la première fois qu'on montre une carte, les gens commencent par dire de toute façon les chiffres sont faux. C'est pas vrai, les statisticiens ont fait leur boulot en Tunisie, même sous la dictature, les usages qu'on a fait de leurs données étaient pourris, mais pas ce qu'ils ont produit. Les recensements sont nickels et tout ça. Donc il faut remonter des pentes incommensurables. Et il faut du temps. Il faut du temps. Et les gens avec qui on travaille sont des gens formés, bac plus 2, bac plus 5, bac plus parfois 7. Et en même temps, quand on discute avec eux, ils disent oui, t'as raison. Ils avaient les cartes sous les yeux. On les a faites, les cartes du décrochage scolaire. Et quand même, ils ont écrit 64%. Et en fait, on a ça tout le temps. Mais en France aussi. C'est-à-dire, dès qu'on sort des quartiers, des espaces normatifs où le chiffre et l'usage du chiffre est intégré, on a ce problème-là. Y compris chez les professionnels, par exemple. on bosse avec la ville de Lyon, et la ville de Lyon, on a introduit des données. D'abord, on a bossé avec certains services, puis après, avec tous les services en même temps, en mélangeant les sources, leurs propres sources, dans un package qui s'appelle Panorama. On le trouve sur le site. Les gens d'éducation, ils voient des données d'éducation associées à d'autres données pour faire des scénarios, ils comprennent que là. Parce que pour leur champ d'usage des données est complètement normé, lié à la politique de pilotage du dispositif. Donc c'est de l'acculturation. Donc en gros, le premier travail qu'on fait, c'est un travail d'acculturation, et parfois ça prend longtemps.
On a le temps d'une petite question.
Je n'ai pas très bien dans votre présentation, il l'a peut-être dit, mais vous avez combien d'utilisateurs en soi et parmi les gens qui sont formés très bien continuent à contribuer à vous ?
Des opérateurs complètement autonomes, une trentaine. Après, on ne les connaît pas tous en fait. Enfin, on n'est pas tous, c'est pas ça, on n'a pas de relation de coopération forcément avec eux. Mais disons des coopérations, il y a trois noyaux, un à Lyon, un en Lorraine, un en Tunisie. Mais à Lyon, il y en a, par exemple, Jordan, il utilisait nos outils avant d'être dans l'intercarto. Il s'en servait dans son boulot en fait. Parce qu'il fait de l'animation